Bonjour et bienvenue sur Bac FM dans votre rendez-vous quotidien, c'est dans les parages. Si les accros vous manquent déjà, pas de problème, la culture est toujours d'actualité à Nevers jusqu'au 31 décembre au musée de la faïence et des beaux-arts avec l'exposition L'œil absolu, le 20e siècle de Jacques Tuilier. Pour en parler, nous sommes avec Marie-Lise Chevalier, chef de service du pôle patrimoine et transmission de la ville de Nevers. Bonjour.
Bonjour.
Et Françoise Hervé, membre de la commission développement, élu communautaire à Nevers Agglomération. Bonjour.
Oui. Et je suis aussi adjointe au maire à la culture et à l'enseignement supérieur. Voilà.
Très bien. Justement, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et présenter ces rôles ?
Oui, alors moi effectivement je suis chef du service patrimoine et transmission depuis maintenant 3 ans et demi. Donc ça consiste à faire rayonner, à valoriser le patrimoine de Nevers et également à s'occuper plus particulièrement du musée de la faïence et des beaux-arts.
Alors moi en tant qu'adjointe à la culture, je chapeaute toute la culture mais aussi tout ce qui va avec, à savoir la musique, le conservatoire, le théâtre avec son programme, sa programmation, mais également le patrimoine et également la médiathèque. Voilà, ce sont les 4 grands axes de la culture avec toutes les expositions, tout ce qui tourne autour de la culture. Et pour ce qui est de l'enseignement supérieur, je m'occupe des étudiants. Voilà.
Ok, oui, donc un agenda bien rempli.
Ah oui.
Cette exposition, L'œil absolu, le 20e siècle de Jacques Tuilier, elle est ouverte depuis le 29 juin. Pourquoi avoir choisi cet artiste ?
Alors Jacques Tuilier n'est pas vraiment un artiste, bien qu'on va le voir, il a quand même peint et dessiné. En fait, c'est surtout un historien de l'art qui a la particularité d'avoir passé son enfance et son adolescence à Nevers. Et donc, au moment de son décès, eh bien, une grande partie de ses archives de travail et sa bibliothèque ont été léguées à la ville de Nevers. C'est la raison pour laquelle on a cette exposition cette année. Voilà.
Et il nous l'a légué parce que c'est quelqu'un qui a habité à Nevers. Il a passé son enfance avec son frère à Nevers. Enfin, il est venu d'Alsace ou de Metz.
Il est né à Vaucouleurs, oui, dans l'Est.
Voilà, dans l'Est. Et donc, il avait vraiment des attaches très profondes à Nevers qu'il a gardées toujours, bien qu'étant parisien et bien qu'étant reconnu dans tous les milieux savants de la région parisienne. Voilà.
Et est-ce qu'on sait pourquoi il a légué tout ça à la ville de Nevers et non pas à sa famille ou des proches ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est un homme qui ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant, donc il n'y avait pas de descendance. Par contre, il avait un frère, Guy Tuilier, qui est très important aussi dans notre histoire, parce que Guy Tuilier a survécu à son frère quelques années. Jacques Tuilier est mort en 2011, Guy Tuilier est mort en 2019. Et en fait, Guy Tuilier a beaucoup organisé la postérité de son frère, et c'est lui qui a suivi les donations à la ville de Nevers. Mais Jacques Tuilier n'a pas donné qu'à Nevers. Il a donné aussi une partie de ses collections au Musée des Beaux-Arts de Nancy, où il y a quelques dizaines de milliers d'estampes quand même. Il a donné aussi à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et puis, il a donné aussi au musée de Vic-sur-Seille, le musée Georges de la Tour.
Ok, et donc il a fait ça, oui, pour mettre en avant ces œuvres-là qu'il aimait beaucoup, à peu près partout en France. Donc.
Il a choisi des endroits auxquels il était attaché. Donc, il y a toute cette région, effectivement, de l'Est dont il est originaire. Il y a Nevers, où il a quand même passé beaucoup de temps. Et puis, l'Institut National d'Histoire de l'Art est à Paris. Et c'est un institut qu'il a contribué à créer, en fait. Donc, c'était l'idée de faire perdurer son travail et de donner à plusieurs endroits qui lui étaient vraiment chers.
Et en quoi ce travail, justement, il est particulier ? Quel style on retrouve dans cette exposition ?
Alors ça, c'est une question très compliquée, parce que oui, en fait, c'est très éclectique. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de l'exposition, je crois. Donc l'exposition s'intéresse plus particulièrement à la relation que Jacques Tuilier avait avec l'art du XXe siècle, c'est-à-dire l'art de son époque. Jacques Tuilier est surtout connu pour ses études sur le XVIIe et le XIXe siècle français. Donc là, on sort un petit peu de la zone où on le connaît le mieux pour aller vers cette relation à l'art de son temps, qui est un petit peu plus compliquée, parce qu'on va voir que quand il cherche à définir l'œuvre d'art, il exclut aussi une partie de la création. Donc on présente à la fois la manière dont il a enseigné l'art du XXe siècle, ce qu'il a collectionné comme art du XXe siècle, et on le présente aussi lui-même comme créateur, puisqu'en fait personne ne le savait de son vivant, mais il dessinait et il écrivait des poèmes.
Oui, justement, ces poèmes, on pourra les retrouver, mais il y a aussi des productions secrètes, j'ai pu lire, des dessins, des peintures. Est-ce qu'il y aura des inédits dans cette exposition, des choses qui n'avaient jamais été révélées avant ?
Ah oui, certainement. Oui. J'ai pas fait la liste, mais parmi ces dessins, parmi ces peintures surtout, il y a des choses qui n'ont jamais été montrées.
Et est-ce que, donc oui, on aura à la fois les œuvres qu'il collectionnait, mais également ses explications. Lui, durant sa vie, cette analyse de l'art, comment elle s'est matérialisée? Est-ce qu'ensuite il a donné donc des cours, il a enseigné un peu? Est-ce qu'il a écrit des choses aussi?
Ah oui, oui, il était professeur au Collège de France et il avait la manière de rendre exceptionnel et simple tout ce qui était très compliqué. Et c'est pour ça que c'était une personne très brillante. Mais il a enseigné aussi dans d'autres endroit. C'était un enseignant remarquable et reconnu comme chercheur aussi.
Oui, dans l'exposition d'ailleurs, on évoque son parcours qui est extrêmement brillant, donc qui finit au Collège de France, mais qui a commencé en fait à l'université de Dijon. Ensuite, il a été enseignant à la Sorbonne. Enfin bon, voilà, il a un parcours exemplaire. Et on évoque donc dans une section qui a été travaillée par les élèves de l'ESSAB, on évoque son rôle d'enseignant, puisqu'il y a une animation qui reprend ses notes de cours. Et on perçoit la clarté de sa pensée. C'est assez impressionnant.
Ouais. Et justement, donc il y a cette collaboration avec des élèves de l'ESSAB. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a d'autres collaborations? Comment ça s'est fait?
Alors, effectivement, il y a eu donc cette année scolaire la création d'une section dispositif scénographique à l'ESSAB, donc en Master 1. Et évidemment, nous, ça nous intéresse beaucoup, puisque la scénographie, c'est quand même au cœur de l'exposition. Donc, il y a eu un partenariat entre la ville de Nevers et l'ESSAB sur cette exposition. Les étudiants ont d'abord créé deux concepts scénographiques qui ont été présentés à l'équipe du musée et de la médiathèque. Et on en a discuté avec eux. Il y a des choses qu'on a retenues, d'autres pas. Et puis après, ils se sont particulièrement intéressés à trois espaces de l'exposition pour lesquels ils ont tout fait, de la conception à la réalisation, donc la mise en place, etc.
Oui, et en même temps, j'ai trouvé, moi, qui étais au début simple visiteuse, qu'une partie de cette conception était en même temps intelligente, mais aussi ludique. Il y avait vraiment quelque chose, enfin il faut aller voir, hein, c'est la meilleure façon, c'est de se rendre au musée. J'invite tout le monde à aller voir le travail de ces étudiants avec leurs professeurs, évidemment, hein, que nous remercions, et c'est vraiment, c'est très original, voilà.
Et on encourage d'autant plus à aller voir l'exposition, qu'elle est gratuite. Est-ce que elle s'adresse à un public particulier?
Alors, moi, j'ai envie de répondre toujours non à cette question, puisque on essaye quand même de faire des propositions qui sont le plus ouvertes possible. C'est pas très facile avec cette exposition, parce qu'il y a quand même des notions un petit peu savantes d'histoire de l'art qu'on a cherché au plus possible à expliciter. Donc, on a fait relire les textes par des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de l'art pour voir un petit peu ce qu'elles en pensaient. On a modifié suite à ça. Et puis après, bien sûr, donc c'est pour tout le monde, mais on conçoit des activités qui sont plus particulièrement adressées à tel ou tel public. Donc il y aura là pendant l'exposition des visites avec des professionnels qui portent leur regard sur l'expo. Donc notamment, on va avoir un encadreur qui va venir, on va avoir un peintre. Et donc chacun porte son regard sur l'exposition. Donc ça, c'est plutôt à destination du public adulte. On va avoir aussi un livret de visite enfant, donc qui est destiné plutôt aux familles, donc pour découvrir de manière plus ludique. Et de la même manière, pour les 6-12 ans, on a une programmation d'ateliers, avec création par exemple d'un livre pop-up, donc qui reprend un petit peu l'idée de la bibliothèque foisonnante de Jacques Tullier.
D'accord, donc oui, vraiment à tout le monde, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et est-ce que, donc je le disais, elle est ouverte depuis le 29 juin cette exposition, est-ce que vous avez déjà des retours? Comment sont les visites pour l'instant?
Mais tout se passe bien pour le moment. Bon, les cartels tendent à se décoller un petit peu des murs, donc on fait usage de beaucoup de double face. Mais non, à part ça, tout se passe très bien. Les retours sont positifs. Je crois que les personnes qui visitent l'exposition sont intéressées vraiment par la richesse de ce qu'on présente et qui est très mise en avant par la scénographie, puisque cette scénographie, elle est faite en fait d'étagères, donc qui reprennent l'idée de la bibliothèque de Jacques Tullier et de ses archives absolument immenses.
Oui, c'est pas une exposition classique, il y a une vraie attention à la mise en scène, aux dispositions.
Oui, bien sûr. C'était quelque chose de très important parce qu'en fait, là, on présente une partie infime de ce que Jacques Tullier nous a légué.
Oui.
En plus, c'est ça qui est frustrant. Ça semble très dense pour le visiteur, mais il faut imaginer qu'il y a 500 mètres d'archives, 500 mètres linéaires qui sont à la médiathèque de Nevers.
Dans les sous-sols.
Et est-ce que ces 500 mètres d'archives, un jour, ils seront aussi dévoilés au grand public? Est-ce qu'il y a d'autres expositions de prévues sur cet historien?
Alors, il y a déjà eu une exposition en 2014 qui était assez générale sur la donation, etc. Là, on a une exposition quand même avec un thème plus spécifique sur le XXe siècle. Mais bien sûr, en fait, on peut imaginer plein d'autres thèmes. Et puis, il y a aussi des étudiants de l'Université de Bourgogne qui vont mener un projet de numérisation sur le fonds Tuileries à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi une perspective de valorisation.
Et cette numérisation aussi, j'avais une question que je me posais, vous qui travaillez justement dans ce milieu de la culture, de la peinture. Aujourd'hui, en plus l'exposition parle du XXe siècle, on expose des peintures, voire même parfois des sculptures et autres. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, 100 ans, on exposera encore des peintures? Ou est-ce que tout ça aura changé?
Non, moi je pense qu'on exposera toujours des peintures, qu'on exposera toujours des objets, parce qu'il y a une émotion un peu différente à être face au vrai objet. C'est-à-dire à l'objet qui a été produit par quelqu'un, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 500 ans, 2000 ans parfois. C'est un témoignage d'une époque aussi, du créateur qui l'a fait, et ça provoque quand même une émotion qui est un petit peu différente de celle d'une transposition numérique.
Et la preuve, quand on voit dans les grands musées les immenses files d'attente pour aller voir, je parle de la Joconde, mais je pourrais aussi parler quand le musée en Égypte au Caire a été rouvert, hein, les gens ont besoin de voir ces objets, ont besoin parfois de les toucher, même des fois ils n'ont pas le droit, mais ils les touchent quand même, hein, ils les abîment. Mais bon, je pense que oui, la numérisation, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, c'est une approche, c'est aussi une approche pour connaître et puis pour donner envie de se déplacer. Mais je suis exactement comme Marie-Lys, je pense qu'on aura toujours besoin de se déplacer, d'aller dans les musées, il faut aller dans les musées.
Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou bien qui voudraient garder un souvenir de l'exposition, il y a un catalogue disponible au musée. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, alors ce catalogue, c'est donc le fruit d'une coproduction, puisqu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais il y a vraiment deux services, hein, qui ont contribué à la conception de cette exposition. Le service patrimoine, mais aussi le service lecture publique et médias, donc la médiathèque de Nevers, puisque c'est cette institution, hein, qui conserve le fonds Tuileries. Et donc les textes ont été rédigés par les deux services. Donc ils reprennent une partie des textes de l'exposition, mais il y a aussi du plus, bien sûr, avec des petits textes qui présentent les artistes que Tuileries a collectionnés, par exemple. Hein, et puis aussi des extraits de textes de Jacques Tuileries, dont certaines choses qui n'ont jamais été publiées.
D'accord, donc il y a aussi de l'inédit dans le catalogue en lui-même qu'il n'y a pas dans l'exposition.
Oui, bien sûr, mais c'est toujours l'idée d'approfondir en fait à travers le catalogue. On est chez soi dans son salon, c'est plus confortable pour lire, on est d'accord.
Oui.
Et la page d'accueil du catalogue, c'est l'affiche de l'exposition. Comment elle a été faite, cette affiche? Est-ce que c'est un tableau de Jacques Tuileries qu'il avait chez lui?
Oui,
en fait, c'est ça. C'était pas facile de trouver une illustration, hein, mais en fait, on a choisi du coup de présenter un autoportrait fait par Jacques Tuileries. C'est à la fois une manière de dire, on parle de l'art du XXe siècle, parce que quand on voit cette image, on sait a priori que c'est de l'art quand même relativement récent, et en même temps, de présenter quand même notre sujet principal, l'historien de l'art lui-même.
Et on voit donc qu'il aimait beaucoup les couleurs, j'imagine. C'est ce qu'on pourra retrouver aussi dans l'exposition.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une couleur un peu dominante dans l'exposition qui est le rouge. Oui. On va retrouver certains artistes comme Claude Garache, hein, qui, lui, il a peint entièrement en rouge toute sa vie. Donc effectivement, il y avait une certaine affection pour la couleur.
Et puis on a repris ces thèmes-là pour les présentations du catalogue. Voilà.
L'exposition, elle s'appelle L'œil absolu. Est-ce que ça voudrait dire qu'il existerait un équivalent visuel à l'oreille absolue?
C'était un petit peu évidemment le jeu de mots sur le titre. En fait, c'est aussi une manière de dire que Jacques Tuileries regardait tout. Donc il avait un œil expert, un œil très précis, et c'est quand même relativement rare. Mais en plus de ça, il avait vraiment l'amour de l'image dans tout le sens du terme, c'est-à-dire qu'il regardait les œuvres d'art, mais il collectionnait aussi les publicités et les tracts. En fait, il était fasciné par le pouvoir de l'image. Donc c'est ça, l'œil absolu.
Et ces tracts et toutes ces images, il y a aussi ça dans l'exposition? Ou ça se concentre uniquement sur la peinture?
Tout à fait, non, c'est plus large. On présente aussi une sélection de ce qu'il y a dans le fond. On montre la diversité et je pense que ça va surprendre un petit peu les gens aussi.
Oui, parce qu'ils vont se retrouver avec des petits morceaux de papier. Mais bon, ils collectionnaient tout, et, enfin tout. Tout et pas n'importe quoi quand même, tout ce qui l'intéressait en tous les cas. Et donc l'exposition essaie à sa mesure d'être un catalogue de ce que Jacques Tulier a aimé et a fait dans sa vie.
Cette exposition, elle se termine le 31 décembre. Donc ça laisse le temps déjà d'aller la voir. Hein. Si vous partez en vacances et que vous revenez en septembre, n'hésitez pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une autre exposition l'année prochaine, dès le premier? Comment ça se passe au musée?
Alors oui, on essaye de proposer une programmation qui est quand même assez variée, donc à raison de 2 ou 3 expositions par an, en essayant d'alterner les thèmes. Ça, c'est assez important pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc là, on est déjà bien sûr en train de travailler sur les thèmes d'exposition suivants pour l'année 2026. Donc il y aura a priori une exposition de début d'année sur Hector Hanotto et la critique artistique. Donc là, on parlera en fait de ce que c'est que la critique artistique au 19e siècle, le système des salons, de l'exposition, comment les artistes deviennent célèbres ou pas. Et puis, dans une deuxième partie de l'année, on parlera de Nevers au Moyen-Âge, donc un sujet plutôt historique et archéologique.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. D'ici là, l'exposition L'œil absolu, le 20e siècle de Jacques Tulier sera disponible jusqu'au 31 décembre, je le disais, au musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci, au revoir.